Si vous voulez vous lever, on va lire le passage qu'on va étudier aujourd'hui, qui est un passage très court, trois versets. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que le millénium, d'après la définition qu'on a discutée un petit peu avant de commencer l'enregistrement, le millénium, nous, comme millénaristes, on donne notre position dès le départ, on croit que Jésus a inauguré, c'est pour ça qu'on l'appelle l'amillénarisme inauguré, parce qu'à la résurrection de Jésus, ça a commencé là que Satan a été lié. On va expliquer un petit peu plus tard comment il est lié, parce qu'il y a encore, de l'activité, il fait encore des choses pour mêler le peuple de Dieu, pour les détourner du Seigneur, mais il est quand même limité, restreint dans ses activités, dans sa puissance et dans son influence. Et ça a été voulu de Dieu, c'est un décret divin. Dieu a voulu ça comme cela. Et le millénium, d'après les amillénaristes, commence à la résurrection de Christ, et ça va jusqu'à temps que le... Parce que quand il dit qu'il va être délié pour un peu de temps, là, quand il va le délier, il va rassembler les nations du monde, puis il va s'attaquer à l'Église, et il va vouloir s'attaquer à Dieu lui-même et à Christ. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Destruction totale et jugement éternel. Alors, c'est juste pour dire, le millénium commence à la résurrection et il se termine au jugement final. Un petit peu avant le jugement final. Parce qu'il est délié pour un peu de temps. En tout cas, on va reviser ça un petit peu plus loin. Alors, le millénium est inauguré par la résurrection de Christ et dure pendant toute la période de développement de l'Église jusqu'au développement, jusqu'au jugement final. Donc, Satan, la principale idée qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, c'est que Satan est divinement contrôlé. Autrement dit, si Dieu avait laissé Satan dans l'exercice de tous ses pouvoirs, l'Évangile ne se serait pas diffusé dans toutes les nations du monde. Il fallait que Dieu restreigne son activité et son influence. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Donc, Satan est divinement contrôlé. On va voir qu'il y a trois idées dans le texte de ces trois petits versets-là. Premièrement, Satan est empêché. On va voir comment Dieu va empêcher Satan d'agir de manière à ce que l'Église... Lui, il aurait voulu que l'Église ne se développe pas. Il aurait voulu l'écraser. Il aurait voulu... Donc, Dieu va permettre qu'il va empêcher... Et deuxième chose qu'il va faire, il va l'emprisonner. Dans le texte, ça dit quoi? L'ange le prit avec une grande chaîne et il le mit dans le puits, l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit où Satan et ses anges sont actuellement. Il dit qu'il y a comme un couvert. C'est comme si tu avais un gros puits sans fond. Satan est là et il ne peut pas sortir de là pour la simple et bonne raison qu'il y a un couvert dessus puis que c'est un ange qui l'a fermé. Il ne peut pas sortir. Comment il peut avoir quand même une influence, même s'il ne peut pas sortir? Les Écritures ne nous expliquent pas, mais on sait qu'il continue d'agir aujourd'hui. Mais il n'a pas la puissance. Dieu lui a limité sa puissance. Sa puissance a été restreinte pour ne pas qu'il puisse arrêter l'Évangile de se répandre et de se répandre dans tous les pays. Quand on avait étudié le livre de l'Apocalypse, une des premières leçons qu'on a faites, ça a été d'essayer de montrer, ça c'est important, parce que si on ne comprend pas le petit passage d'aujourd'hui, le petit tableau que je suis en train de vouloir vous montrer, là, on va avoir bien de la misère à saisir ce qu'on est en train d'étudier. William Hendrickson, c'est pas un deux de pique, c'est un des grands érudits protestants. Et lui, l'Apocalypse, il l'a étudié, puis il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà acheté. Apocalypse plus que vainqueur de William Hendrickson. Et ça a été traduit en français. Excellent petit bouquin. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé l'ensemble de l'Apocalypse et il a essayé de découvrir une structure, une façon que le livre parle. Et lui, il voit là-dedans sept sections ou sept visions. Puis si vous prenez le temps d'aller regarder les chapitres qui sont mentionnés, là, vous allez voir que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il veut montrer par ça? Il y a sept visions ou sept sections du livre. Il y en a trois que l'action se passe sur la terre, les trois premiers. Et les quatre autres se passent, c'est, autrement dit, c'est le monde spirituel qui vient activer ce qui se passe sur la terre. Ouf, ce que vous voulez dire, ce que je veux dire, les versets 1, les chapitres 1 à 11 nous montrent l'action de l'avancement de l'Évangile et de l'opposition de Satan sur la terre. À partir du chapitre 12, l'action, c'est que le livre veut qu'on comprenne ce qui se passe en arrière. C'est comme s'il y avait un théâtre, c'est ce qu'on voit, puis l'autre, c'est ce qu'on voit pas. Les anges, ils travaillent par en arrière, ils cherchent à empêcher. Donc, il y a trois choses. Le thème du livre, c'est important parce que si on comprend ça, vous allez voir que beaucoup de choses allument. Moi, ça a beaucoup contribué à ma compréhension du livre. Le thème du livre, c'est la victoire de Christ et de son Église sur Satan et ses acolytes. Alors, si vous regardez le premier carreau, c'est marqué « La lutte sur la terre ». Autrement dit, si vous regardez à partir du chapitre 1, allez jusqu'au chapitre 11, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe, l'action est sur la terre. Donc, l'Église est persécutée dans le monde. L'Église, cependant, va être vengée, protégée et victorieuse. Vous avez les trois visions dans la partie sur la terre. La première vision, Christ au milieu des chandeliers. Vous vous souvenez de ça? Mais ce qui est important de voir, c'est que dans les sept visions, l'action recommence toujours au début. C'est pour ça qu'ils appellent ça parallèle progressif. Si on ne comprend pas ça, là, on va avoir énormément de difficultés à comprendre l'Apocalypse. Quand on le comprend, là, on a moins de difficultés parce qu'on se rend compte que Dieu raconte en gros la même histoire de la vision 1, de la vision 2, de la vision... Tout la même histoire à partir du début, mais quand on dit parallèle, progressif, ça veut dire que ça va aller en progressant. Vous avez Christ au milieu des sept chandeliers d'or, chapitre 1 à 3. Vision 2, c'est le livre scellé des sept sceaux. Vous vous souvenez-vous de ça? Après ça, la vision 3, vous avez les sept trompettes du jugement. Chapitre 8 à 11. La contrepartie spirituelle. Autrement dit, on veut d'abord nous montrer ce qui se passe à la terre. L'autre partie, c'est que le Seigneur veut qu'on comprenne aussi ce qui se passe en arrière. C'est qui agit pour que toute cette action-là se passe en terre. Donc, Christ et l'Église est persécuté par le dragon, Satan et ses acolytes, chapitre 12 à 22. La vision numéro 4. La femme et l'enfant mâle sont persécutés par le dragon et ses acolytes, les bêtes et la prostituée, chapitre 12 à 14. Vision 5. Les sept coupes de la colère de Dieu, chapitre 15 et 16. Vision 6, la chute de la grande prostituée et des deux bêtes, chapitre 17 à 19. Voyons, on est rendu là, là. Ce qui est important, si on ne saisit pas qu'il y a sept visions qui sont parallèles et qu'il y a un progrès là-dedans, on ne comprend pas. Parce qu'après que le chapitre 19 est arrivé, on avait vu que Christ était revenu et est en train de juger. Là, après, il nous parle encore d'action. Mais s'il est venu puis il est jugé, pourquoi il y a de l'action après? Les prémillénaristes croient que la Bible, le livre de l'Apocalypse, donne une vision chronologique. Parce qu'ils pensent qu'après 19, il va y avoir... C'est la suite. Autrement dit, la suite chronologique. Ceux qui ont étudié le livre en profondeur se rendent compte de cette structure-là. sept visions qui racontent toujours la même histoire, mais dans une perspective différente, avec une progression. Quand on comprend ça, on voit que après que le Seigneur est descendu et revenu, dans le chapitre 20, le mille ans qui est là, c'est pas mille ans, c'est pas chronologique. C'est qu'autrement dit, il reprend l'histoire sous un autre angle et il développe encore pour nous montrer un autre aspect. Je sais pas si vous voyez le si vous le voyez, là, le livre de l'Apocalypse va s'illuminer. Moi, je trouve que William Hendrickson, c'est un maître pour avoir saisi ces choses-là et nous les expliquer. Et ensuite, quand on relit l'Apocalypse, si on suit les visions 1, on sait de quel chapitre à quel chapitre. On lit la vision 2, de quel chapitre à quel chapitre. On voit cette structure-là qui reprend toujours une histoire, pas toujours la même, mais avec un angle différent. C'est pour ça qu'ils appellent ça parallélisme. C'est parallèle. Autrement dit, c'est qu'on compterait toujours la même histoire. Donc, on compterait l'histoire de votre famille. Mais on la prendrait sous des angles différents. On recommence toujours au début. Quand tu changes de vision, tu comptes encore la même affaire, mais sous un autre angle. Ça, c'est important, parce que là, à partir du moment qu'on comprend ça, si c'est pas chronologique, le chapitre 20, c'est pas surprenant que le mille ans n'est pas nécessairement un mille ans. Je sais que c'est dur à suivre, là. Je suis conscient de ça, là. Je vois certaines têtes qui sont baissées, là, puis c'est dur à comprendre. Je vous dis pas le contraire. Donc, l'idée fondamentale de les bien-notes, là, c'est l'Apocalypse se divise en sept parties ou visions. Elles sont parallèles. Et chacune d'entre elles couvre la nouvelle dispensation tout entière. Saisissez-vous ce que je veux dire? J'espère que vous saisissez. Autrement dit, tu recommences toujours la même histoire, mais c'est toujours dans une façon différente, un angle différent. Laquelle, la dispensation tout entière, laquelle s'étend de la première venue du Christ à son retour. Ça, c'est Hendrickson qui dit ça. Maintenant, quand on lit, parce qu'au début de son livre, il y a deux propositions. La première, je viens de la lire. La deuxième, elle se lit comme suit. Mais si on saisit comme faux ces deux propositions-là, je vous jure que le livre de l'Apocalypse s'éclaire d'une façon extraordinaire. Proposition 2. Les sept parties peuvent être rassemblées en deux grands groupes. Le premier, chapitre 1 à 11, comprend trois parties. On l'a vu tantôt. Et le deuxième, chapitre 12 à 22, quatre. Du premier au deuxième, on note une progression dans la profondeur et l'intensité du conflit spirituel. Mais l'Église, au milieu de laquelle se tient le Seigneur, est vengée, protégée et victorieuse. Le deuxième dévoile l'arrière-plan spirituel et caché de cette lutte. C'est un conflit entre Christ et le dragon, conflit dans lequel Christ et par lui son Église est victorieuse. Très intéressant. J'ai dit dans quel livre que je l'ai pris, William Hendrickson, Apocalypse plus que vainqueur, édition Grâce et Vérité, page 23. Enfin, ceux qui ont le livre, allez voir. Relisez ce chapitre-là. Parce que, en le relisant, là, les choses commencent à s'illuminer. On comprend certains principes de base qui sont nécessaires pour comprendre. Mais là, on pourra dire, OK, c'est juste Hendrickson qui pense ça? Non. Joel Bickey, pas un deux de pique non plus, là, un pasteur américain extrêmement connu, extrêmement influent, qui a beaucoup écrit, il dit la même chose dans son ouvrage sur l'Apocalypse. Alors, en anglais, dans son livre qui s'appelle Revelation, Expository Commentary on the New Testament, sur la version e-book, moi j'ai la version e-book, là, il dit au chapitre 31, It is not a linear history, but a series of parallel visions. Voyez-vous la même idée qui revient. Bickey veut indiquer que l'Apocalypse ne doit pas s'interpréter de façon linéaire et chronologique. Ça, là, si vous comprenez ça, là, ça va vous sortir de la brume, vous le dis. Si tu penses que c'est chronologique, ça veut dire le Seigneur est revenu, il a jugé, on l'a vu dans le chapitre 19. Et là, il y a de l'action qui continue après. Donc, si tu penses que c'est chronologique, il y a quelque chose d'illogique. Mais si c'est la même histoire racontée sous un autre angle, ah, là, c'est un autre game, comme on dit. Paulin Bédard, qui a lui aussi étudié l'Apocalypse, fait la remarque suivante sur ce principe-là, sur cette idée-là. Il dit, là, il parle de l'interprétation prémillénariste en la critiquant. Il dit, l'interprétation prémillénariste suppose que l'Apocalypse présente les événements selon un ordre chronologique. Apocalypse 19, 11 à 16, nous avait annoncé le retour du Seigneur. Il serait alors normal de penser que le millénium d'Apocalypse 20 viendrait après le retour du Seigneur. C'est là que viennent les écoles. Il y en a qui pensent qu'à cause que s'ils pensent que c'est chronologique, ils pensent, OK, donc on rentre dans le millénium, et là, toutes les théories qui ont été bâties autour de ça. Il dit, nous avons cependant déjà remarqué à plusieurs reprises que les visions de l'Apocalypse ne présentent pas des événements selon un ordre chronologique, mais selon un ordre thématique ou spirale parallèle progressive. Il fait juste redire la même chose que je viens de vous expliquer. Les chapitres 20 à 22 constituent la dernière section de l'Apocalypse et nous amènent encore une fois au début de la période du Nouveau Testament pour donner une vue d'ensemble de cette période sous un angle nouveau. Apocalypse 20 ne décrit donc pas les événements qui se produiront après le premier retour du Seigneur, mais nous présente les événements entre sa première venue sur terre lors de son incarnation et son retour en gloire. Donc, je fais tout simplement vous mentionner que j'ai copié tel quel le mot que j'ai trouvé dans Bédard, mais quand que je mets quelque chose en gras, c'est pas dans son texte. C'est pour ça que je l'indique, là. La mise en gras et le soulignement sont de moi. Donc, nous avons ajouté, en annexe, une courte présentation des principales positions théologiques concernant la signification du millénium. Celles-ci ont été tirées de l'article « Eschatology, Four Views on the Millennium » du site blueletterbible.org. C'est là que j'ai trouvé ça, les quatre positions exprimées de façon détaillée, mais résumée, en anglais. Ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans Google, ça que j'ai travaillé pour vous autres, là. Les ai mis dans Google, les ai traduits. Puis là, vous allez pouvoir avoir les quatre positions. C'est quoi le prémille historique? Prends ta feuille et regarde. C'est quoi le prémille dispensationaliste? Prends ta feuille et regarde. C'est quoi le post-millénariste? Prends ta feuille et regarde. C'est quoi la millénariste? Prends ta feuille et regarde. Puis à un moment donné, quand tu lis les autres documents que je vous ai donnés, comme Greer, si c'est le meilleur défenseur de l'amillénarisme, c'est parce qu'il a vu les autres positions, il les a critiquées, puis il a dit « qu'est-ce qu'il ne faut pas là-dedans? » Puis il a fait la même chose avec le post-millénarisme. C'est pour ça que je vous ai donné les outils. Si vous avez des outils, puis vous ne vous en servez pas, c'est un peu comme quelqu'un qui veut se construire une maison, puis essaie de construire ça avec sa tissu en plastique. Si je te donne les outils, sers-toi-en. Sinon, ça ne te donnera pas grand-chose, je te le jure. Alors, on va faire un petit bout. Nous partageons entièrement la position du pasteur Joel Bickey, qui favorise l'interprétation amillénarisme ou amillénarisme inauguré. J'avoue que j'aime mieux amillénarisme inauguré, parce que le mot inauguré, ça veut dire qu'on est dans le millénium, qui est parlé de là le mille ans. On est dedans, il est inauguré par la résurrection de Jésus-Christ. Hein? Millénariste, ça veut dire qu'il n'y aura pas de millénariste. Alors ceux qui sont millénaristes, oui, mais qu'est-ce que tu fais d'Apocalypse 20, verset 1 à 6? Comprends-tu? Apocalypse, amillénarisme inauguré. Voici ce que lui affirme. Encore là, je vous ai pris Qu'est-ce qu'il dit dans son livre? J'ai pris ses affirmations anglaises, je les ai mis dans Google Traduction et j'ai fait des petites corrections. Des fois, ça s'est traduit un peu carré, là, mais je les ai traduits pour que ça soit compréhensible. Puis je vous les ai donnés en français. Joel Beakey, c'est un homme connu aux États-Unis, c'est un homme qui est d'une culture extraordinaire. Alors lui, il a étudié le phénomène. Il dit, alors voici ce qu'il affirme. Avec tout le respect que je dois aux chrétiens, qui ont des points de vue divergents, nous pensons que le livre de l'Apocalypse, y compris la section la plus controversée du chapitre 20, favorise une interprétation amillénariste. Voici quelques raisons. C'est sûr qu'il ne fait pas le tour. Il fait juste donner quatre grandes raisons importantes. Premièrement, le Nouveau Testament enseigne que les promesses de Dieu à Israël ont déjà trouvé un accomplissement partiel dans l'Église en tant que royaume. Et pourtant, ils seront accomplis dans la gloire ultime plutôt que dans un règne nationaliste et terrestre. Avec le paquet de versets. Deuxièmement, les Écritures indiquent que la venue de Christ dans la gloire, la résurrection des justes et des méchants, le jour du jugement et la fin de cet âge auront tous lieu en succession rapide au lieu d'être dispersés sur une période de 1000 ans. Ça, là, ça en est une importante. Quand tu regardes les phénomènes, tout ce qu'il a nommé, là, ça se produit dans une succession rapide et non pas, c'est pas séparé par une période de 1000 ans. Troisièmement, l'Apocalypse est un livre de vision symbolique. Par conséquent, il faut interpréter les nombres comme 1000 et les images comme le fait que Satan soit lié avec une chaîne et scellé dans une fosse au chapitre 20 comme des symboles. Ce n'est pas incompatible avec une interprétation littérale de la parole de Dieu, mais nous devons reconnaître que des parties de l'Écriture communiquent via des métaphores ou des symboles. Tu sais, quand on lit ce chapitre-là, un ange se prenait avec une longue chaîne. Satan, c'est un être surnaturel, un être invisible. Comment une chaîne peut... Tu sais, on utilise des images que les hommes connaissent. On sait qu'avec une chaîne, on peut attacher quelqu'un. Mais ils utilisent le mot « chaîne » dans le sens symbolique du terme pour dire que Dieu, durant la période où l'Évangile va se répandre, l'influence de Satan et son pouvoir vont être restreints et limités. Quatrièmement, l'Apocalypse suit une structure cyclique, apportant à plusieurs reprises le lecteur au retour du Christ à la fin de chaque cycle. Voyez-vous l'idée que je vous ai dit tantôt, là, c'est que tu reprends la même histoire, puis ça finit toujours à la fin du cycle, c'est comme le Christ est gagnant. Tu prends le deuxième cycle, tu reprends l'histoire au début, tu te rends à la fin, le Christ est gagnant. C'est important de saisir ça, parce que si on ne saisit pas ça, on pense que c'est chronologique, et c'est là que nos difficultés apparaissent. Alors, le chapitre 20, comme le chapitre 12, prend du recul pour considérer la période entre la première et la seconde venue du Christ avant de passer au jour du jugement et de l'éternité. De plus, ça je trouve ça très intéressant parce que si vraiment on étudie le sujet d'aplomb, c'est quelque chose qui nous revient tout de suite à l'esprit. De plus, selon l'interprétation prémillénariste dispensationaliste, Jésus reviendrait deux fois. La Bible dit une fois, lui dit, les autres ils disent deux fois. Il y aurait deux peuples de Dieu, selon eux, les Juifs et l'Église. Il y aurait deux résurrections, celle des justes et celle des méchants, ainsi que deux jugements séparés dans le temps par une période de 1000 ans. Les chrétiens glorifiés habiteraient une terre qui ne serait pas encore purifiée par le feu. Des fidèles, déjà en possession de leur corps glorifié, côtoiera d'autres fidèles qui n'auraient pas encore reçu ce nouveau corps, ainsi que des pécheurs non repentants, vivant toujours dans ce monde corrompu. Satan serait lié afin de ne plus séduire les nations, mais celles-ci continueraient à être dans leur cœur les ennemis du Christ et seraient prêtes à obéir à Satan et à faire la guerre aux saints dès que les 1000 ans seraient écoulés. L'introduction est longue, mais est nécessaire. Là, on tombe vraiment dans l'explication des versets, des trois premiers versets qu'on est. Mais si on garde à l'esprit ce que je viens de vous dire, vous allez voir que ça va faciliter la compréhension. Dans le verset 1, Satan est empêché. Après cela, qu'est-ce qu'il veut dire après cela? Après la vision, la vision 6, après que Jean a eu fini la vision du chapitre 6, après cela, je vis descendre du ciel. Alors, c'est une autre vision qui commence. Il vit descendre du ciel un ange. Là, il y en a qui disent que c'est Jésus-Christ lui-même, il y en a d'autres qui disent que c'est un ange dont l'autorité a été déléguée par Dieu. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y en a beaucoup qui défendent l'idée que c'est Christ lui-même. Un ange, souvent dans les Écritures, on parle de Christ comme un ange à certains endroits. Un ange qui avait la clé de l'abîme. Donc, ça prend quelqu'un qui est assez puissant pour être capable de prendre les anges, Satan y compris, et tous ses anges, et de les enfermer dans un puits sans fond, mettre un couvert dessus, puis barrer tout ça. Alors, ça dit qu'il y avait la clé de l'abîme. Pour qu'il y ait la clé de l'abîme, ou c'est Christ, ou c'est Dieu lui-même qui a donné à l'ange l'autorité et la puissance d'être capable de le faire. Et une grande chaîne en sa main. Là, on imagine... Donc, Satan, il est si gros ça, puis il est gros. Si. Autrement dit, on est en train de vouloir démontrer que Satan est un être puissant, que pour limiter sa sphère d'action, il fallait que Dieu utilise des moyens forts, une grande chaîne, et le mettre dans un puits sans fond. Imaginez un puits sans fond, il met tous les anges dedans, et il met Satan dedans, puis il met un couvert par-dessus, puis il barre ça. Nous autres, dans notre esprit, on comprend, hein, un puits sans fond, on comprend ce que... Mais là, on parle de choses spirituelles. Comment que c'est, est-ce que ça ressemble à nous puits, à nous autres? Il l'appelle l'abîme, puis que tu vas dans n'importe quel dictionnaire biblique, puis tu regardes l'abîme, on dit que c'est l'endroit où, actuellement, Satan habite avec ses anges. Ça a été barré. Autrement dit, avant que Christ vienne, dans l'Ancien Testament... Satan avait le plein pouvoir sur les nations pour les séduire. La raison pourquoi Dieu a voulu, après la résurrection de Christ, il a voulu que Satan n'ait plus ce pouvoir-là sur les nations afin de les séduire. Autrement dit, s'il arrête de les séduire, ou du moins il limite sa séduction, l'avancement de l'Évangile va pouvoir se faire selon la volonté de Dieu. Alors, Satan et ses serviteurs sont des ennemis de Dieu, des ennemis du Christ, de son peuple et de son évangile. Ce n'est pas surprenant qu'ils aient déployé toutes les énergies et les ressources possibles pour tenter de bloquer l'avancement et la diffusion de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour ses élus. Dieu a cependant décrété que l'œuvre destructive et ténébreuse du malin soit restreinte et limitée pour toute la période entre la résurrection du Christ et sa deuxième venue. Alors, si on interprète le 1000 ans comme cette période-là, on ne sait pas, ça ne sera pas 1000 ans vraiment, 1000 années de 365 jours. C'est une période, 1000, souvent les Écritures, est utilisée pour parler de quelque chose qui est très important, Alors, c'est un 1000 ans symbolique. Quand il dit « après cela », ça ne signifie pas que c'est une suite chronologique du chapitre 19, mais plutôt le début de la description d'une nouvelle vision, celle qui commence avec le début du chapitre 20. Là, il dit « je vis descendre du ciel un ange ». Alors, certains auteurs voient dans la personne de l'ange le Seigneur Jésus-Christ lui-même, puis c'est pas des deux de pique non plus. Un des théologiens que je respecte le plus de toute ma vie, là, que j'ai utilisé beaucoup, là, John Gill, c'est ce qu'il croit, que c'est Christ. Matthew Henry, pour ceux qui connaissent un petit peu les auteurs, les commentateurs Matthew Henry croyait aussi que l'ange dont il est parlé ici, c'était Jésus-Christ. Matthew Poole, un autre. En tout cas, je n'ai pas voulu sortir tous les noms, mais juste pour dire que certains auteurs très érudits voient dans l'ange la personne de Jésus-Christ elle-même. Tandis que d'autres voient un ange très puissant qui a eu une autorité déléguée par Dieu le Père lui-même et qui s'est vu confier la puissance nécessaire pour être capable de le faire. Prenait un ange puissant pour prendre Satan et toute sa gang d'anges, parce qu'on dit que c'est le tiers de tous les anges. On a déjà vu dans Daniel, il y a plusieurs millions d'anges. Alors, ça prenait quelqu'un qui était capable de les envoyer où ce qu'il voulait. Puis ça dit que cet ange-là avait la clé de l'abîme. L'ange tient une clé qui va lui permettre de fermer l'abîme. Cet abîme est une sorte de grand trou semblable à un puits avec un couvercle par-dessus. Le couvercle peut être ouvert ou fermé au moyen d'une clé. Encore là, la clé, c'est symbolique. La chaîne est symbolique. Est-ce que nous, on voit la grosse chaîne, puis on entourait Satan avec ça, puis on entourait tous les démons pour les mettre dans le puits? C'est une image symbolique pour parler que Dieu avait l'autorité de Satan et ses acolytes, ses anges mauvais. On pouvait les lier, les mettre dans ce puits-là, et ils ne pouvaient pas sortir. Ils mettaient le couvercle, puis il y avait la clé pour fermer ça. Jusqu'à ce que ça dit, un petit peu plus loin, dans le chapitre 3, pour un court temps, il va être délié, et c'est là qu'il va prendre, l'initiative de ramasser tous les ennemis de Dieu sur la terre et de les emmener au combat final, la fameuse guerre d'Armageddon. Alors, quand on va dans le chapitre 9, au verset 1 à 3, on en parle encore une fois, la clé du puits de l'abîme. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donné à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Rappelons également que les clés de la mort et du séjour des morts sont détenues par Jésus qui règne sur le domaine de la mort depuis sa résurrection. Apocalypse chapitre 1, verset 18. « Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Donc la clé de l'abîme représente l'autorité de Jésus-Christ qui est employée pour restreindre le diable durant l'époque actuelle de l'Église, de la résurrection du Christ à sa deuxième venue. L'abîme est la prison de Satan et de ses anges. Ils y sont enfermés. Ils demeureront là jusqu'à la période précédant immédiatement le retour du Christ. Alors, quand il va le délier pour un court temps, parce qu'il dit dans le verset 3, il faut qu'il soit délié pour un court temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Les autres versets nous le disent. Il va rassembler les nations de la terre, et il va vouloir détruire l'Église, il va vouloir s'attaquer à Dieu lui-même. C'est là que la fin arrive. Ça dit qu'il avait une grande chaîne dans sa main. L'ange tient dans sa main une grande chaîne. Sa grandeur s'explique par le fait que la créature qu'elle a pour but de lier est très puissante. Nous croyons que la clé et la chaîne doivent être comprises de façon symbolique. Même les dispensationalistes le reconnaissent. Pourquoi alors tiennent-ils tant à ce que le nombre 1000 soit pris littéralement? Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui.